Périgord littéraire, une émission présentée par Pierre Martial.
Eh bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Périgord littéraire. Alors, cette semaine, nous allons encore saluer la mémoire de Gérard Fayol, qui nous a quittés il y a quelques jours et qui est l'auteur d'une dizaine d'ouvrages, dont Histoire de Périgord en 2 volumes, publié par Pierre Farlac, et je crois que c'est celui que j'ai sous les yeux, qui est publié en 1988. Alors, il a quand même, on va passer, il fait sénateur, on va passer sur sur les titres nationaux, et je voudrais simplement rappeler qu'il fut maire du Bugue de 1983 à 2008, conseiller général de la Dordogne de 1979 à 1998 dans le canton du Bugue, président du conseil général de la Dordogne de 1992 à 1994, conseiller général d'Aquitaine de 1986 à 1996, ça fait quand même long, vice-président de la communauté des communes Terre de Cro-Magnon de 2000 à 2008, et puis il a quand même été président de la Société historique archéologique du Périgord, la CHAP, bien connue, lorsqu'en 2018, il est président de l'Institut Eugène Roy et vice-président de l'Académie des lettres et des arts du Périgord, et membre en 1969 du comité des historiens et géographes de langue française. Bien sûr, il aura quelques décorations et il est l'auteur d'une dizaine d'ouvrages sur le Périgord, bien entendu. Et bien sûr, nous saluons sa mémoire parce qu'il nous a quittés il y a quelques jours. Alors donc, je vais reprendre l'histoire du Périgord, c'est le deuxième volume, édité par Pierre Farlac, et qui est très richement décoré de photos, de dessins, etc., etc. Et je vous conseille, si vous le trouvez, de l'acheter en ces 2 volumes. Alors, on va sauter quelques siècles, on va passer des troubadours à l'époque actuelle avec les états du Périgord. Alors la convocation, je vais faire un peu de lecture, la convocation des états généraux est le premier acte d'enchaînement que personne, bien sûr, n'aurait pu prévoir. Les responsables en Périgord ne se doutent pas en ce printemps 1789 qu'ils ne sont plus sur le devant de la scène que pour quelques mois. La maîtrise des événements ne va pas tarder à leur échapper. Nous sommes déjà au tournant où disparaît le passé, où s'esquisse à venir. Contemplons cette scène capitale de notre histoire. Alors, notre histoire du Périgord, mais évidemment une histoire nationale, bien évidemment. Alors, tout seigneur, tout honneur, ce n'est pas un mince personnage que César Pierre Thibault de la Brousse, marquis de Verteillac, comte de Saint-Même, baron de la Tour-Blanche, seigneur de Saint-Martin-le-Pin, de Saint-Front-de-Chapier, de la Bourrière et Hautelieu, maréchal du camp des armées du roi et grand sénéchal du Périgord. Par ce titre honorifique, le marquis de Verteillac représente le roi dans la province. Certes, en 1789, le noble marquis n'a pas abusé de son titre et de ses prérogatives. Son installation officielle à Périgueux n'a pas encore eu lieu. Il est pourtant sénéchal depuis le règne de Louis XV. C'est quand même une sacrée paye. Il va falloir s'en préoccuper et la cérémonie aura lieu au mois de mars. Ce sera un cérémonial suranné que le marquis fait son entrée à Périgueux entouré d'archers et de mousquetaires, salué et complimenté par les notables, accablé par la foule, toujours friande de musique, d'uniformes, de beaux chevaux. Avant de pénétrer dans l'enceinte de la ville, le sénéchal du roi jure solennellement de respecter les coutumes de Périgueux. En ville, il assiste à des messes, à des réceptions, à des bals. Toute la noblesse, toute la bourgeoisie de la ville, qui d'ailleurs se prétend noble, d'après les vieux textes, fête l'élégant et agréable seigneur. La formalité est remplie selon les meilleures traditions, comme au bon vieux temps, quand les sénéchaux d'autrefois, François de Bourdeille ou Élie de Pompadour-Laurière, faisaient leur joyeuse entrée. Les choses sont maintenant dans l'ordre, il ne reste plus à monsieur le marquis qu'à accomplir notre formalité, présider les états généraux du Périgord, et ce sera quand même une chose beaucoup moins simple. Alors les états généraux de la province se réunissent solennellement à la cathédrale Saint-Front le 16 mars 1789. Alors sur un siège surélevé, monsieur le grand sénéchal représente sa majesté, il contemple la foule réunie là, figée pour le cérémonial qui ne s'était pas produit depuis 1614. avec quand même une sacrée paye. Et il est temps de remettre ça pour à l'ordre du jour, mais pour peu de temps. Son tricône de velours noir où tremble une aigrette blanche, posée sur un genou, le marquis de Verteillac, immobile, écoute divers harangues et contemple l'assemblée. Autour de lui, sur des fauteuils ou des escabeaux, s'étagent les officiers de la province qui administrent et détiennent l'autorité. Les plus connus et le plus considérable d'entre eux par son activité et par ses fonctions, le lieutenant général Fournier de la Charmie. Le lieutenant général connaît sur le bout des doigts les problèmes des hommes de la province. Il a joué dans l'histoire des dernières années un rôle majeur, et notamment dans les deux grandes affaires juridico-politiques qui ont occupé l'esprit des Périgourdins, l'affaire des Francs-Fiefs et l'affaire du Grand Bailliage. Alors, bon, on va faire une petite une allusion à l'interminable procès des Francs-Fiefs, affaire qui a obsédé la bourgeoisie de la province et les juristes de Périgueux. Cette affaire des autres, en définitive, que l'éternel combat que livre la ville pour maintenir un privilège qu'elle prétendait détenir depuis le Moyen-Âge, à savoir le fait que ses habitants étaient des bourgeois du roi, vassaux directs de la couronne. Les Périgourdins, très attachés à cette dignité qui pouvait les faire passer pour membres de l'ordre de la noblesse et les dispenser de paiement de la tailleur. Ça, je pense que c'est peut-être la chose quand même un peu plus importante, ne pas payer d'impôts. La révolution arrive. Alors, donc, ils avaient toujours combattu pour se faire reconnaître et confirmer ce privilège que le pouvoir royal avait toujours tendance à oublier ou à négliger. Il s'agit, on s'en doute, d'un procès extraordinairement confus où la ville eut ses deniers, son énergie intellectuelle et toutes ses ressources du savoir-faire de ses nombreux juristes. Alors, parmi, il y a Fournier de la Charmie, ses avocats et autres avoués qui sont en contact permanent avec l'avocat de la ville de Périgueux, a commis à Paris pour défendre son affaire et qui était Duménil de Merville. À la veille de la Révolution, les bourgeois de Périgueux, le nez dans cette affaire complexe et dépassée, ne voient pas venir l'orage. Bien au contraire, ils pensent pouvoir profiter des réformes qui vont promouvoir les états généraux pour rétablir et confirmer un privilège qui paraîtra dans quelques mois tout à fait hors de saison. Et oui, les choses vont quand même aller assez vite. Alors pourtant, en 1788, à l'occasion de l'affaire toute récente du bailliage, les bourgeois de Périgueux avaient sauté sur l'occasion déjà. Ils s'étaient trompés d'époque. La monarchie acculée à faire des réformes avait cru, on s'en souvient, trouver la solution en réorganisant le système juridique et administratif français. Pour cela, elle amoindrissait le pouvoir des parlements au profit des cours de justice locales. Périgueux devenait le siège d'un grand bailliage et reprenait ainsi à Bordeaux des pouvoirs dont elle rêvait depuis longtemps. L'installation du grand bailliage de Périgueux fut un jour de gloire pour tous ceux qui s'étaient battus en faveur de l'établissement à Périgueux d'un pouvoir administratif et judiciaire important. La ville de la province, débarrassée de la tutelle de Bordeaux, retrouvait leur grandeur passée. On crut au moment que le vieux rêve de l'indépendance périgourdine vis-à-vis de Bordeaux allait être réalisé. Les défenseurs du projet siégèrent en majesté au grand bailliage. Alors il a bien sûr Fournier de la Charmie, bien sûr, mais aussi Maté de la Grèze, tenant particulier, Migaud de Blanzac, maire de Périgueux, Bonneau de la Jarte, Pontard Lamberti, et Bélé d'Albavie, et quelques autres quand même. Alors tous bourgeois de Périgueux, amis souvent parents entre eux, ayant pignon sur rue dans la vieille ville et toujours dans la province, de nombreuses métairies dont ils portaient les noms. Hélas, à peine installé, le bailliage fut supprimé. Ben oui. Les choses vont aller quand même assez vite. La cour ne pouvant faire aboutir ses projets de réforme, ça remettait aux états généraux. Le bailliage fut cruellement chansonné par le bon peuple de Périgueux qui avait jugé 26 affaires. Alors cette sorte de fièvre juridique qui animait la ville trouve maintenant ce printemps 1789 tout le loisir de monter. En Fournier de la Charmie, les avocats et les bourgeois de Périgueux ont enfin un sujet de satisfaction. Les états généraux du Périgord sont réunis. En ce jour historique qui doit leur paraître l'aboutissement de leur longue lutte, les bourgeois du roi peuvent encore espérer que d'une manière ou d'une autre, un titre particulier leur sera reconnu. Mais pas vraiment. Alors, depuis son fauteuil, le grand sénéchal peut contempler l'imposante assemblée, presque 1000 personnes qui représentent la province. Le clergé siège à sa droite et la noblesse à sa gauche. La masse des délégués du tiers-état est en face de lui. c'est bien sûr à la noblesse, à Castres, toutes ses sympathies, du marquis de Verteillac au premier rang. Il peut reconnaître ses pères, les grands seigneurs du Périgord, dont beaucoup ont daigné se déranger. Sur les 520 possesseurs de fièvre de la province, 240 sont présents, les autres y ont donné procuration. Les grands du pays sont représentés et beaucoup d'entre eux vont intervenir souvent au cours des débats. Leur ordre leur confère des responsabilités. Le marquis de Verteillac peut reconnaître dans la foule ses amis, les Saint-Exupéry. Ben oui, et oui, Saint-Exupéry, ma foi, avait quelques souches en Périgord. Les Rastignac, les Ducheron, les Larmandie, le marquis de Comarque, de Bailly, de Marsaille, de Mensignac, etc. Alors, dès le premier jour, le doyen de l'ordre, Cosson de la Surdrie, avait eu à régler un petit incident très significatif. Le maire de Périgueux, Migaud de Blanzac, de Roumanier, accompagné de Louis Dujarric, syndic de la ville, a prétendu au titre de citoyen seigneur de Périgueux, siégé avec la noblesse. L'ordre l'a repoussé en tant que citoyen seigneur de Périgueux, mais l'a admis personnellement en tant que noble lui-même et possesseur de fief. Un procès verbal a été dressé de l'incident dont le grand sénéchal a pris acte. Les bourgeois du roi, on le voit, n'ont pas renoncé à leurs prétentions. Dans quelques mois, ils chercheront plutôt à faire oublier leur titre. Ben oui, la vie publique va quand même aller très vite et de nouvelles personnes vont arriver sur le devant de la scène. La noblesse veut rester entre soi, tout intrus et rejeté. Nous sommes encore sous l'ancien régime. La chose est moins évidente dans les reins du clergé. Celui du Périgord, comme celui du royaume, est divisé. Cet ordre ne s'est renferme en effet des catégories sociales très diverses, depuis les puissants archevêques, les titulaires de riches abbayes jusqu'aux pauvres curés de campagne qui n'ont quelquefois pas de pain. Ben oui, enfin je pense que les gens des communes devaient pouvoir quand même à leur bienfait. Alors un corps aussi peu homogène tardera pas à éclater sous la pression des événements lorsque viendra l'heure des vrais choix. Puis ce jour, la cérémonie, l'évêque est encore le chef du clergé de son diocèse, ou sans plus que Monseigneur de Grosol, de Flammarin, c'est le seul évêque présent. Monseigneur Ponte d'Albaret, évêque de Sarlat, qui sera d'ailleurs, je crois, le premier maire à la Révolution, est représenté par son vicaire Vincent de Chaunac, famille périgordine bien connue, et l'archevêque de Bordeaux, puis son seigneur du Périgord, représenté par l'abbé Prunis, citoyen, prieur de Saint-Cyprien. Mais déjà des querelles de préséance ont agité le corps. Des chanoines ont voulu passer devant les abbés. L'abbé de Chancelade n'a pas voulu céder le pas à l'abbé de Saint-Astier. Le grand sénéchal en a pris acte. Puis les quelques 240 membres présents de cet ordre se sont installés, chacun réservant ses droits et espérant bien faire valoir ses titres. C'est donc une assemblée un peu désordonnée que peut contempler sur sa droite le marquis de Verteillac. On y trouve pêle-mêle des chapitres de la cathédrale, une demi-douzaine d'abbés, des représentants des grands monastères, la collégiale d'Aubeterre, et oui, Aubeterre était rattaché au Périgord à l'époque, Brouchot, les dominicains, les carmes de Bergerac, Brantôme et Cadouin, d'autres encore, les communautés de femmes sont également représentées, Sainte-Claire, les Ursulines, la visitation de Périgueux, et encore le Bugue, Ligueux, Sarlat, Saint-Pardoux, etc. Alors, tous ces dignitaires de l'Église sont entourés de plus de 180 curés de campagne qui ne vont pas tarder à faire entendre leur voix largement majoritaire, d'autant plus puissant qu'ils représentent les mandats de 343 autres prêtres qui n'ont pas eu le temps ou les moyens de venir. Voilà, alors, je vais arrêter là cette lecture et je vous conseille, si vous le trouvez, l'histoire de Périgord de Gérard Fayol, un livre qui est quand même très richement illustré et je vous en souhaite une bonne lecture et je vous dis à la semaine prochaine.
C'était Périgord littéraire, une émission présentée par Pierre Martial.